Roland Michaud, bonjour.
Bonjour.
Sabrina Michaud, bonjour.
Bonjour.
Alors Roland Michaud, vous avez été un temps professeur d'anglais. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre les voiles avec un appareil photo argentique dans vos bagages ?
Ah, une insatisfaction profonde de ce qu'offrait ma société. L'envie terrible d'aller voir ailleurs ce qui se passait, parce que j'étais sans doute à la recherche de quelque chose qui n'était pas à ma portée chez moi, même si ça existait, je ne savais pas. Et bon, soif d'absolu, enfin, soyons simples, recherche d'un peu de sagesse. Car déjà, j'avais le pressentiment, bien que les choses n'étaient pas aussi exagérées qu'aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas, que c'était pas vraiment... On était dans une drôle de direction, il n'y avait pas vraiment de direction. Et j'ai voulu, par curiosité bien sûr, aller ailleurs, voir un peu l'ailleurs.
Et la direction, c'était Cap à l'Est. Alors Sabrina Michaud, et vous, pourquoi avez-vous mis les voiles ?
Parce que la première fois que j'ai rencontré Roland, il m'a dit « Aimez-vous les voyages ?» J'ai dit « Oui ». Et puis voilà, je me suis laissée entraîner.
Dans une très longue aventure. Alors, quel regard jetez-vous, tout d'abord Roland et ensuite Sabrina, sur ces 40 dernières années de reportage photographique ?
Eh bien, nous avons l'impression d'être de super privilégiés parce que nous avons connu ce que nous pensons être l'essentiel, c'est-à-dire cette vie nous est sans doute donnée pour qu'on l'apprécie, dans tous les domaines, et les rencontres que nous avons faites, parce que le voyage, ce n'est que la rencontre, ont été tellement bouleversantes, nous ont tellement apporté, enrichi, nous ont fait souvent sentir que nous avions tout à apprendre. Et si vous voulez, nous avons eu la chance d'aborder ces cultures dans un esprit d'humilité. Nous n'allions pas pour dire « Oh ben après tout, c'est nous les meilleurs ». Et la première leçon, ça a été l'Afghanistan, où cet homme à la rose m'a interpellé. J'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tu viens, tu as des diplômes, ils sont tellement pauvres que tu es un riche par rapport à eux. Et ils respirent une rose. Et pourquoi ils respirent une rose ? Et est-ce que toi, tu sais le faire ? Est-ce qu'on te l'a appris ?» etc. Est-ce un geste de culture ? Et cet homme à la rose ne m'a jamais quitté. Il est devenu pour moi un maître de vie, alors que c'était un petit artisan de bazar. Alors ça a été le début d'une longue histoire, puisque nous avons fait beaucoup, beaucoup de rencontres, et que nous en faisons encore. Et ça, c'est le privilège, rencontrer les gens qui vous apportent quelque chose. Parce que moi, je cherchais à m'enrichir. Je pensais que j'étais perfectible. Alors ça, c'est une autre affaire.
Ça, on est tous perfectibles.
On garde bien tous ses défauts. Mais disons qu'il y avait la volonté, et quand même, honnêtement, vous imaginez bien que 53 ans de mariage, 25 ans sur les routes d'Asie, et envoyé par personne de notre propre volonté, forcément, ça vous marque. Vous n'en sortez pas indemne, comme on nous dit quelquefois.
Et vous, Sabrina, le regard sur ces années photographiques ?
Eh bien, à vrai dire, moi, je n'étais pas amenée à photographier, mais Roland a découvert qu'il ne pouvait pas photographier les femmes. Hélas pour lui, donc il m'a mis un appareil entre les mains et il m'a poussée un jour à une porte ouverte où il y avait une ravissante... jeune d'Anakil, et à travers les hauts murs, il m'a dit, voilà, telle ouverture, telle... voilà.
Donc il a été votre professeur.
Photo réussie, je suis devenue photographe. Voilà.
Bon. Ben pour votre plus grand plaisir. Est-ce que les mille et une nuits, Roland Michaud, vous font toujours rêver ?
Absolument. Ah, si je me plonge le nez dans les mille et une nuits, j'oublie tout. Je dis, mais c'est pas possible qu'il puisse y avoir des contes. C'est extraordinaire. Et ça a été notre livre de chevet. On se lisait, quand nous étions jeunes mariés, on se lisait ces contes. Chacun de notre tour, soi-disant. Mais après, c'était Roland qui lisait tout le temps. Bon, passons, ça c'est un détail, je lui ai pardonné. Mais si vous voulez, nous étions nourris de tous les contes, de toute la littérature, la poésie de l'Orient. Mais en pensant... que c'était sans doute assez éloigné de la réalité d'aujourd'hui, parce qu'on nous disait, quand j'ai dit en arrivant à Paris, petit provincial, ben moi je viens découvrir la miniature persane. Et j'ai été ébloui par ses couleurs, ce monde idéaliste, idéalisé. Et j'ai dit, mais il faut aller en Iran. Et évidemment, j'ai demandé, on m'a dit, oh, tu sais, le rapport entre l'Iran d'aujourd'hui et ses miniatures, oublie. J'ai voulu aller voir et j'ai retrouvé les mille et une nuits. Mais ça ne vous est pas donné non plus comme cela.
Nous non, avons payé le prix. Il faut aller le chercher.
Il faut aller le chercher, vraiment le chercher. Mais vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit ce auquel on veut croire, si on y croit vraiment, on le trouve, on le rencontre. Qui cherche, trouve, dit nos propres écritures. Donc tout ça, les choses les plus simples ont pris un relief extraordinaire. Et donc c'est nourri de toutes ces choses que nous sommes partis. Et la beauté, la raison pour laquelle nous avons pu garder notre enthousiasme, garder, un enthousiasme pour la vie, pour ça, c'est justement que nous avons rencontré ces personnages, qu'il n'y avait pas un fossé. Sans quoi on serait heureux, on aurait dit, ben non, voilà, on n'est pas... Or, ces choses existent, mais heureusement, d'une certaine façon, elles sont cachées. Il faut les mériter. Il faut les mériter. Et c'est un peu notre message, c'est pour les gens qui savent lire entre les lignes ou qui ont la chance de savoir regarder une image. Voilà, les Afghans m'ont fait découvrir dans nos livres, nos premiers livres, nous ont montré des choses que nous ne connaissions pas, que nous ne savions pas que nos images portaient une telle richesse. Voilà, c'était des découvertes réellement fabuleuses.
Alors, qu'est-ce qui vous fascine dans la steppe ?
Dans la steppe, c'est un petit peu comme le désert, ou la montagne, ou la mer. C'est que l'homme, tout d'un coup, se retrouve tout petit devant ce qu'il dépasse, devant l'infini, devant l'absolu. Et la steppe, bien sûr, a son charme particulier. Il y a évidemment la poussière, le vent. Mais c'est là que derrière, dans ces villages misérables, derrière ces murs empisés, personne ne savait que là se tissaient les plus beaux tapis du monde, s'élevaient les meilleurs chevaux du monde. C'est ça, n'est-ce pas ? Plus le monde est ingrat, plus l'homme qui a vécu ces régions, plus il a envie de couleur, de beauté. Et ça, c'est ce que nous ont apporté justement un peu l'Asie centrale, ces steppes.
Et d'où vient le nom de Tartarie que l'on donnait à l'Asie centrale ? Parce que votre livre s'appelle justement « L'Asie des Tartares ».
Alors, si vous voulez, là, c'est aussi une petite critique du monde moderne. Aujourd'hui, si vous voulez comprendre ce qu'est l'Asie centrale, vous allez tomber sur des noms « Tadjikistan »,« Kirghizistan », »,« Kazakhstan ». Vous ne vous en sortez pas et ça change, parce qu'ils deviennent indépendants, ils s'agrandissent, ils se bagarrent. Et au XIXe siècle, jusqu'au XIXe siècle, notre monde, qui était moins stupide, il était moins instruit, mais il avait compris que ça, c'était une entité géographique qui recoupait à la fois ce qu'on appelle les Turco-Mongols, les peuples turcs de l'Asie centrale. Et ça allait de la Mongolie jusqu'à la Russie, grosso modo. Alors c'est cette entité qui nous a intéressés. Et au XIXe siècle, on ne faisait pas la différence entre les Kazakhs et les Kirghizes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils étaient tellement proches. Ce sont des cousins. Alors il y a des différences de patois, mais le genre de vie pastorale, et la mentalité, voilà. Donc, si vous voulez, ce mot sonnait bien, parce qu'il est à l'opposé de barbare. Il fait penser à quelque chose. Et en fait, c'est une région de haute civilisation.
En fait, vous avez tiré un trait sur un siècle et quelques de géopolitique, et puis voilà. Et puis après tout, pourquoi pas ?
Je voulais dire quelque chose, c'est que ce qui est très important dans ces populations... Là, ce sont les femmes, parce que ce sont elles qui gardent la tradition. Et que donc Roland, étant un homme dans un pays islamique, ne pouvait voir que les vieilles femmes, en fait. Et puis moi...
Alors vous avez vu les plus belles.
Les plus belles, et puis celles qui m'apprenaient à lire un tapis comme un livre. C'est passionnant. parce que n'importe quel tapis peut se lire. Elles y mettent toute leur âme, elles y mettent toute leur connaissance, en fait, et c'est très beau.
Et prenons les Turkmènes d'Afghanistan, les femmes turkmènes. Vous imaginez ma surprise. Nous étions ensemble et j'ai découvert ces femmes sur les diapositives au retour que Sabrina avait faites. Et je dis, mais il faut qu'on retourne à nouveau. Vous voyez, mais évidemment... il faut avoir la patience. À l'époque, on développait pas, on voyait pas le résultat de notre travail, mais ça nous a appris beaucoup de choses. Si vous voulez, la facilité est ce que soi-disant l'homme recherche. Et notre expérience, aussi humble soit-elle, nous a prouvé que c'est dans la difficulté que l'homme peut s'épanouir et réellement, oui, être lui-même.
Voilà une belle leçon.
Si ajouter quelque chose, c'est que en fait, nous avons été privilégiés parce que nous étions un couple et plus une famille, et donc nous ressemblions à leur communauté et que nous étions accueillis en tant que famille.
Oui, c'est ce que disent tous les voyageurs quand ils voyagent ensemble avec des enfants. Alors, Roland Michaud, quand et comment avez-vous rencontré Sia Kalem?
Alors nous étions dans ce grand voyage qui a été le voyage fondateur, ce voyage où nous sommes partis de Paris en ayant tout sacrifié. On gardait 3 ballots chez 3 amis et pas d'appartement, rien du tout. Nous sommes partis pour l'autre bout de l'Asie et on avait un viatique d'un an, on espérait pouvoir durer un an et nous sommes restés 4 ans et demi sans rentrer en France, ce qui a été quelque chose d'extraordinaire et c'est ce voyage qui nous a fait. Nous avons compris la première chose, quelle est la chose la plus précieuse pour des gens comme nous ? Le temps. Ah, l'argent est partout, nous n'en avons pas, mais c'est pas grave. Mais le temps, personne n'a le temps. Et l'Orient avait le temps. Alors, ça a été difficile, parce que quand une famille qui vous accueille et vous montrez que vous êtes intéressé et qu'ils vous, en Iran par exemple au début, et que les gens vous disent « Ah mais vous vous intéressez, mais nous marions notre fille dans 8 jours, restez avec nous. » Alors on se regardait, bah oui mais 8 jours, on a un programme, on est des Occidentaux, on veut tout voir. Non, il fallait rester. Et nous avons eu la bonne idée de rester, pas toujours. Et après on a compris qu'il fallait rester. Et nous n'avons fait que retourner pendant 40-50 ans presque.
Alors Sia Kalem, j'y reviens.
Pardon.
Sia Kalem.
Sia Kalem. Alors au musée de Topkapı à Istanbul, il y a une œuvre qui est régulièrement exposée d'un peintre dont on ne connaît rien sinon sa signature. Maître du Kalam noir. Oustad Sia Kalem en persan. Et les peintures de ce peintre, nous ont éblouis. On s'est dit, mais où existent des personnages comme ça, qui ont tant de caractère ? Voilà ce qu'il faudrait que nous photographions. Nous étions débutants. Et nous sommes partis à la recherche. Alors, ça a été une aventure incroyable, parce que c'était compliqué. Après, il fallait prendre les photos des peintures, il fallait obtenir des permissions, ça a été des années de travail. Et ces miroirs, ben nous les trouvions 2 ou 3 par an, voilà. Et on a forcé, on a imaginé ce parcours, et tout d'un coup, eh bien, nous tombions sur des personnages, mais ça, c'est du Sia Kalem. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on peut encore rencontrer en plein bazar afghan un monsieur comme ça qui sort de sa boutique. Il est pieds nus. Mais je me souviens, on a vu l'autre, il était pieds nus aussi. Et il avait le manteau de la même couleur. Alors vous imaginez après ce que ça a dit quand on a parlé de cet homme qui respirait. Alors, ah oui, mais il a un manteau déchiré. C'est un pauvre. Pourquoi il n'a pas été à l'école ? Et nous avons senti tout de suite que cet homme n'avait pas besoin d'aller à l'école. Ça lui servait à rien. Il savait respirer une rose et il avait sa place dans sa société. Donc ça a été toute une source de réflexion, mais qui s'est échelonnée sur plusieurs années. Quand nous avons rapporté sa photo, il était mort. Et les gens du bazar, quand ils nous avaient vus nous attarder autour de cet homme, toute une matinée, nous ont dit « Mais quand est-ce que vous lui apporterez la photo ?» Et on a dit « Dans un an ». Et tout le monde a ri en disant, dans un an, il sera mort. Et lui, il riait lui-même. Alors vous imaginez les rapports à la mort, tout ça. Chez nous, ce n'est pas du tout la même chose. Et nous, nous avons commencé à réfléchir, et trouver que, bien sûr, je ne veux pas idéaliser. Ils ont les mêmes problèmes, ils sont mortels comme nous. Ils souffrent de la même façon quand il fait froid et s'ils n'ont pas à manger, etc. Mais ils ont une sagesse parce qu'ils ne sont pas tentés par les biens matériels du monde parce que ces biens ne sont pas visibles dans leur bazar, dans tout ça. Donc, si vous voulez, ce qui fait la différence entre un riche et un pauvre là, c'est minime. Le grand chef du village aura un tchapan en mantant comme ça, en soie, au lieu de l'avoir en coton. Mais c'est une petite différence. Et chez nous, un PDG qui va gagner 1000 fois ce que gagne un... voyez. Et ça, ça crée un grand malaise. Et ce qui caractérisait l'Afghanistan, que personne ne peut dire, parce qu'il faut être resté longtemps, c'était l'harmonie qui régnait entre l'homme et sa terre. Ces gens-là avaient leurs défauts. Et si le seigneur du village était... un sale type, c'était un sale type. Mais il y avait aussi de bons seigneurs. Et nous, nous avons compris tout notre Moyen-Âge occidental grâce à l'Afghanistan, grâce à ces gens-là.
Donc vous devez être très triste maintenant avec tout ce qui s'est passé en Afghanistan. Oui, bien sûr, alors, ça. Du coup, Sia Kalem vous a permis de lier vos deux passions, c'est-à-dire celle de l'Asie et celle du monde musulman.
Oui, et puis quand même, si vous voulez, nous a appris beaucoup d'humilité. Parce que regardez, nous sommes photographes. Et qu'est-ce qu'il y a en
et lui est peintre.
Livre, une peinture. Donc,
vous effacez.
Respect. Cet homme est mort depuis 500 ans. J'espère que peut-être de son paradis musulman, il voit une grande affiche. Gallimard, il se dit, qu'est-ce qui m'est arrivé là? Ou il s'en fout complètement. Mais toujours est-il que pour nous, il a joué son rôle et donc il a fallu beaucoup de temps pour d'abord convaincre aussi un éditeur, voyez, qui s'intéresse à ça aujourd'hui. Il faut avoir le temps de regarder un livre comme ça. Et ce livre est émaillé de petits poèmes, sans prétention, mais qui ont été très importants pour moi, qui meublaient des longs treks dans la montagne ou des journées difficiles, le soir à trouver quelques rimes, avant de m'endormir, c'était...
Justement, on vous découvre poète, ça effectivement je ne savais pas.
Je suis poète dans l'âme, alors je ne sais pas si j'ai su exprimer ça, bien sûr je suis poète, mais on ne peut pas dire on est poète, ça se voit, ce n'est pas à moi de dire je suis poète.
Alors sur quelle piste géographiquement parlant vous a emmené ce Sia Kalem qui a été votre guide finalement depuis le XIVe siècle jusqu'au XXe siècle?
Sia Kalem finalement pour moi... Parce que les savants, les historiens d'art se réunissent en colloque international. Japonais, Américains, Turcs, tout le monde, Européens, ils vont de leurs études et se disputent sur les dates à quelques années près, les écoles. Parce qu'à l'époque, n'est-ce pas, c'était les sultans, il y avait des mécènes. Un peintre ne pouvait pas vivre sans doute de sa peinture. Et lui, il a peint le petit peuple. C'est déjà quelque chose d'exceptionnel au XVe siècle. Où on peignait la vie de cour. Le prince, le roi, et on peignait les chasses, on peignait... Et lui, alors ça c'est aussi, c'était très intéressant. Mais, alors attendez, j'ai perdu le fil, là, vous disiez juste avant...
Par rapport à Sia Kalem et les lieux où vous a emmené.
Ce qui est intéressant, c'est que finalement, au point de vue vestimentaire, au point de vue... C'est au Turkestan chinois, qui appartient maintenant, qui est une partie intégrante... Du territoire chinois, ce qu'on appelle le Xinjiang, Turkestan chinois, qui est une région, on appelle ça les minorités. Et ces gens-là appartiennent à une vieille civilisation, ils ont eu leur écriture, tout ça. Mais actuellement, ils essayent un petit peu de... Ils sont quand même
Ils sont chinois maintenant.
Ils lisent tout et deviennent, voilà, tout est sinisé, tout, ils n'ont pas beaucoup de place et ils en souffrent beaucoup. Donc, pour nous, Sia Kalem était sans doute un Ouïghour, parce que cette région est peuplée d'Ouïghours. Et les Ouïghours ont aussi des résistants qui ont un représentant à Londres ou à Francfort, ou peu importe, ou à Paris. Et voilà. Donc, mais nous n'entrons pas dans ce débat. Nous sommes neutres. Ce qui nous a intéressé, c'est l'homme, c'est l'archétype, c'est la tradition. La politique a un gros défaut. elle divise les gens. Et nous, ce qui nous a intéressés, c'est ce qui pouvait les unir. Donc, les coutumes, les voilà.
Et vous êtes devenu, du coup, un petit peu son ami par-delà les siècles?
Ah oui, 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 bien sûr. Pour moi, c'est un familier. Il pourrait être mon grand-père ou mon père. Ou...
Alors, Tabriz, Herat, Samarcande sont des noms qui nous font encore rêver. Comment vous expliquez ce rêve permanent?
Ah ben ça, c'est quelque chose de particulier dans l'homme, parce que je crois que je ne suis pas le seul au mot de Samarcande ou de Kilimandjaro. Les gens rêvent, c'est comme ça, mais ils sont souvent déçus. Et ils ne sont pas honnêtes parce qu'ils ne vous disent pas « on a été déçu par Samarcande ». Moi, je le dis parce que c'est vrai, mais j'ai été déçu. Mais en même temps, il y a encore quelque chose qu'on respire, n'est-ce pas? C'est comme la vallée de Bamiyan, les grands Bouddhas, nés en pays musulman, mais les gens... Les villageois du coin savaient que ce lieu avait été transformé par l'esprit du bouddhisme et ils étaient attachés, on le sentait. Donc là, on dépasse les clivages politico-économico, machin, et religieux même. Et ça, c'est intéressant. Mais ces mots-là, heureusement, continuent à nous faire rêver. Mais... Honnêtement, nous en récoltons, nous ne pouvons en voir que les miettes. Et nous, notre travail, ça a été de réunir ces miettes pour en faire quelque chose d'un petit peu plus, qui soit un peu mieux que des miettes. Voilà.
Et vous, Sabrina Samarcande, vous avez été déçue ou pas?
Ah oui, moi aussi, j'ai été déçue. Mais quand même, il y a à Samarcande quelque chose de très beau qui est... le mausolée de Tamerlan et les plus belles faïences, je les ai vues là quand même, ces faïences bleues, c'est très très beau.
Alors, le maître du kalam noir, le kalam c'est une plume, mais il y a en fait un jeu de mots en turc qui sème un peu la confusion entre l'encre, le pinceau, le papier, etc.
Oui, c'est-à-dire que finalement, cette signature peut désigner un homme qui utilisait le kalam. Mais ça peut être aussi, c'est considéré en Turquie, en Iran, comme un style. On fait du siya kalami, du kalam noir. C'est comme un, oui, comme on dit le lavis ou comme on dit l'estampe, tout ça. Alors là, c'est encore très controversé, mais ce sont des questions, si vous voulez, ce ne sont pas les questions essentielles pour nous. Bien sûr, on essaye de suivre...
Oui, vous n'êtes pas un spécialiste de siya kalam.
S'il y a eu un style, il y a forcément eu un homme qui a donné ce style.
Il y en a même qui disent qu'il n'aurait pas existé, j'ai lu ça.
Oui, mais nous sommes persuadés qu'il a existé.
Bah oui, puisqu'il a été votre guide, c'est la moindre des choses.
Mais alors, supposons que nous l'ayons inventé, quelle importance. Il nous a fait rêver, s'il pouvait en faire rêver quelques autres, notre mission est accomplie. Nous sommes là pour partager un petit peu, c'est tout.
Alors, justement, vous dites, à propos de ce peintre qui a peint des démons, et que vous le qualifiez de Jérôme Bosch oriental et de Bruegel asiatique. Vous pouvez préciser?
Oui, parce que, si vous voulez, là aussi, ce qui est extraordinaire pour nous, c'est d'avoir compris que nos grands peintres, alors je vais directement à Bruegel des Flandres, nous y sommes, il n'est pas loin, vous... Eh bien, Bruegel, il n'y a pas eu qu'un Bruegel, il y a eu des Bruegel aussi, au fin fond de l'Asie. Ils ont peint les mêmes choses, les malheurs. C'était les photographes de l'époque. Donc son témoignage est très important. Et alors en plus, lui, il a une double casquette, on dirait en français. Il a peint des démons terribles. Et ces démons, ben, Jérôme Bosch en a peint aussi. Alors, qui sont ces démons? On peut tout imaginer. Mais en fait, ce sont sans doute les démons intérieurs que nous portons tous et contre lesquels il faut se défendre.
En tout cas, ils sont très noirs, ces démons. Alors, pour faire ce livre, vous avez travaillé sur vos archives, Sabrina?
Oui, oui, beaucoup. Parce que... Il fallait rêver d'abord avant de faire ce livre et lire en rêvant, en venir à une réalité. Et donc, voilà, c'est un produit de nos rêves.
Alors Roland, le travail sur les archives pour faire ce livre?
Oui, beaucoup de travail sur les archives, beaucoup de travail en musée, beaucoup de retours dans les livres, mais constamment repartir sur le terrain. Alors, ce qui n'est pas dit aussi, mais les légendes sont authentiques, c'est que tout d'un coup, vous avez un personnage indien. Vous avez ici un personnage d'Éthiopie que nous avons photographié en 1905. Enfin, c'est incroyable.
Il y a longtemps.
Une de nos premières photos, et qui est toute une histoire, parce que quand nous avons vu ce personnage, vieux guerrier, Amara, province d'Éthiopie, 1961. 71, 81, 91, 2000, presque 50 ans, oui. Eh bien, ce personnage n'a rien à voir avec Sia Kalem. Mais on retrouve les types, c'est ça qui est intéressant. Les archétypes sont partout. C'est-à-dire que Sia Kalem, je peux le retrouver ici, en Flandre. Et ça, c'est aussi une sacrée leçon que l'homme est un et que voilà, et que nous avons peut-être eu une, nous avons notre sosie quelque part où il existait il y a 100 ans ou il existera demain. Voilà, il y a une très grande variété, mais il y a aussi des constantes, il y a des choses qui reviennent. Et si vous voulez, cela nous a appris, ça nous a beaucoup aidé, parce que le photographe, qu'est-ce qui lui arrive? Il va se perdre. Il dit, ben oui, moi j'aime bien les bergers. Alors il va photographier le berger en Provence, dans les Alpes, partout. Il y a des bergers partout, il y a des moutons partout. Alors, comment simplifier? Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est le berger, le vrai berger, le plus berger des bergers, avec un grand B, qu'on imagine avec un bâton et tout ça. Et ce berger-là, une fois que vous l'avez rencontré, vous dites, bon, ben, le berger, c'est bien, je connais, je peux passer à autre chose. Vous voyez? Et sinon, vous passez, c'est pareil, photographier les fleurs, les jolies filles, mais il faut choisir, il faut choisir. Alors, nous étions débutants, vraiment débutants, notre premier voyage en Afrique, en Éthiopie. Et un jour, nous avions appris que les anciens guerriers, qui s'étaient battus contre les armées de Mussolini, tout ça, dans les années 30, 35, avaient comme apanage de porter une crinière de lion. Parce que le lion est le roi des animaux, donc guerrier, il a le droit, il est un roi. Et un jour, dans un village, on n'en voyait pas des crinières de lion. On nous présente un vieux guerrier, et on nous dit, c'est un vieux guerrier. Oh, nous, comme des imbéciles, enfin, il ne pourrait pas nous faire voir sa crinière de lion. Et cet homme, vexé, sort ses cheveux, qui étaient un peu fermés par ce truc, et dit, est-ce que ses cheveux ne valent pas toutes les crinières? Quelque chose comme ça, qui nous a été traduit. Et cette photo était restée, et tout d'un coup, je dis, mais alors, elle n'est pas très bonne, elle n'est pas. Nous n'aimons pas des photos où les yeux ne sont pas éclairés. Nous avons beaucoup d'exigences, de rigueur, n'est-ce pas? Ce n'est pas la peine de faire un portrait dans des mauvaises conditions. Donc, ces mauvaises conditions, si elles existent, il faut revenir quand les conditions sont bonnes. C'est pour ça que nous avons mis aussi beaucoup de temps. Mais c'est ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, on peut photographier dans n'importe quelle condition. Et ça peut être correct. Donc, ça change beaucoup, mais pas forcément, encore une fois. Alors, vous voyez qu'une photo d'Éthiopie, de notre premier voyage, vient s'insérer naturellement.
Avec Sia Kalem.
Je voulais dire aussi, quand même, que de comprendre les démons de Sia Kalem, c'est d'avoir été sur le terrain, là où Sia Kalem a dû vivre. Nous y avons été, nous. Et donc, nous avons, je me souviens que nous dormions dans notre voiture pendant tout notre voyage. Et à ce moment-là, dans les steppes, eh bien, il a bien fallu se dissimuler dans des hautes dunes qu'on appelait les dunes marcheuses, d'ailleurs. Et le soir, c'était très impressionnant parce que le vent s'engouffrait dans ces grandes dunes et on avait l'impression de gens qui soupiraient, qui c'était lugubre, mais d'une façon terrible.
Donc, vous avez rencontré les démons. Oui. Roland et Sabrina Michaud, merci.